en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Assia Djebbar, vous vivez entre New York, Paris et Rome. Alger vous a vu grandir, vous êtes née à Cherchel, à 100 km à l'ouest de la capitale algérienne, mais vous avez aussi connu Tunis, Rabat, Bâton Rouge. Autant dire que vos voyages, vos exils, car il y en a eu plusieurs, vous ont conduite du Maghreb aux États-Unis en passant par l'Europe. Alors des lieux, des villes, où après vous avoir lu, on vous imagine arpenter rues et ruelles de France, d'Algérie ou d'ailleurs, en femme libre, attentive aux voix, au silence et au regard. Auteur écrivant en français depuis l'âge de 20 ans, romancière, cinéaste, auteur de nouvelles, de drames musicaux. Vous aimez vous placer selon une formule de Diderot que vous avez fait vôtre, à la fois au dehors et au dedans. Votre vie est un roman, votre œuvre traduite dans plusieurs langues, et vous avez été lu à l'Académie royale de Belgique en 1999 au fauteuil de Julien Green. Vous avez reçu de nombreux prix et votre œuvre est plus connue à l'étranger qu'en France. Je vous propose, Assia Djebbar, de jeter l'encre sur les bords de Seine, qui Conti, pour une heure en notre compagnie, sur Canal Académie, la radio des Académies de l'Institut de France, l'Institut où vous avez fait votre entrée solennelle sous la coupole il y a quelques jours à peine. Assia Djebbar, bonjour.
Bonjour.
Vous avez été élue à l'Académie française en juin 2005, l'an dernier. Vous avez prononcé, selon l'usage, l'autre jour, un discours d'éloge sur votre prédécesseur, le doyen Georges Vedel, et Pierre-Jean Rémy, votre confrère, a lu en réponse un discours de réception à votre égard. Et tous deux, ce jour-là, vous avez insisté sur l'immense plaie du colonialisme. Et Pierre-Jean Rémy nous a dit combien la langue française était pour vous la meilleure des armures pour faire entendre la voix des femmes, de ceux et celles anonymes de l'histoire qui, confrontés aux événements historiques, n'en constituent pas moins des acteurs à part entière. Alors, vous avez rejoint les 40 immortels de l'Académie française, qui compte désormais 4 femmes avec vous. Donc, Jacqueline de Romilly, Hélène Carrère-Dancos et Florence Delay. Et rappelons simplement que Marguerite Yourcenar vous a précédé en 1980 en étant la première femme à y entrer. Alors, à votre armure, l'écriture, il faudrait dorénavant ajouter une épée. Les académiciens apportent une épée qui leur est offerte par leurs amis et leurs admirateurs. Alors, ce sont des épées qui sont des œuvres d'art, hein, bien souvent des pièces d'orfèvrerie. Jean Cocteau avait dessiné la sienne. Elle est immédiatement reconnaissable. L'autre jour, lors de cette cérémonie très solennelle, vous n'avez pas porté l'habit vert, mais vous avez porté votre épée. Pouvez-vous nous la décrire?
Oh, ben écoutez, je crois qu'elle est en argent et en ivoire. Et j'avais d'abord hésité. Je n'étais pas sûre que je voulais vraiment une épée. Après, j'ai essayé de me dire, ah ben si je prends une épée, je vais peut-être, ça serait l'occasion pour prendre des cours d'escrime. Parce que je n'aime pas avoir une chose et ne pas m'en servir. Je n'ai pas de voiture parce que je ne conduis pas. Et donc, j'ai hésité vraiment longtemps. Et puis après, j'ai dit, bon, si c'est une épée qui vient de mon pays, ça sera une épée algérienne. Et j'ai donc une de mes amies, très ancienne, universitaire comme moi, mais qui vit entre Alger et Paris, donc Fatima Oussedik. Je lui ai dit, bon, ben, tu cherches toi l'épée. Et puis on s'est donné un certain temps. Si tu la trouves et si elle est à peu près vraiment ancienne, parce que je voulais pas d'une épée fausse ancienne, bon, ben on se décidera, mais sinon, ben tant pis, je prendrai pas d'épée. Je veux dire, c'était pas... Et finalement, je crois que c'était 2 mois avant qu'il y ait l'installation. Elle m'a envoyé un email d'Alger à New York en me disant, je l'ai trouvé. Alors, elle me l'a décrite, et puis j'ai dit, bon, alors maintenant, il faut la faire venir. On l'a fait venir par valise diplomatique. Et parce qu'elle est vraiment grande.
Elle est grande, oui.
Oui, mais moi, elle m'a dit, elle est vraiment authentique, elle a de l'ivoire, elle est belle. Et puis après, quand Pierre Nora l'a reçue, il a dit, ah, elle est vraiment grande, hein. C'est un sabre, c'est pas seulement une épée. Alors j'ai dit, ben voilà, c'est l'épée que mes amis ont trouvée. Et puis, entre-temps, l'idée de faire de l'escrime a un peu disparu, parce que je crois qu'un ami m'a dit que quand même, l'escrime ne développe qu'une partie du corps, la moitié. Mais en réalité, bon, c'était peut-être une façon de m'habituer à cette épée. J'ai fait mettre mes initiales en arabe.
Oui.
J'ai mis le alif et le jim à Sia-Djeba. J'ai dit, je voudrais, entre les deux lettres, mettre le mot Pax en latin. Et donc, au moment où l'a reçu le graveur à Paris, qui devait mettre cela, il a dit, oui, mais moi, j'ai pas un livre pour faire les lettres, il faut qu'elle m'envoie. Donc, dans le petit département, enfin, au milieu des autres collègues. Alors voilà qu'il fallait que je fasse mon alif et mon jim.
Calligraphie.
Et je ne les trouvais pas très très bien. Et bien figurez-vous, il y avait l'administratrice, qui est une Américaine, mais qui prend des cours d'arabe depuis longtemps, qui m'a dit, mais Assia, moi je prends des cours de calligraphie, elle l'a fait tellement belle, que j'ai dit, ah ben dis donc, vraiment Sandy, hein, vous êtes formidable, vous écrivez mieux que moi. Moi j'ai écrit en arabe longtemps, mais sur la planche, alors sur le papier c'était différent. Et j'ai voulu que ça soit le mot latin, d'abord parce que c'était bref, mais c'est pas surtout ça, c'est pour rappeler que, après tout, le latin a très souvent été porté par l'arabe en Occident, on l'oublie. Je veux dire, l'arabe, les auteurs arabes de la grande période... Mm-hmm. On traduit à partir du grec. Alors moi qui, à un moment donné, aurais voulu étudier Averroès, ben Averroès traduisait à partir de traductions, évidemment. Mais enfin, voilà, j'ai mis Pax. Parce que de l'autre côté de l'épée est écrit quand même mon nom en français de l'Académie française, élu tel jour. Et elle est là, mais parce que vous savez qu'après mon discours, je l'ai oubliée. Alors, je dois aller la récupérer.
C'est une épée quand même tout en symbole, mais c'est les mots que vous y avez gravés
On dit qu'elle est 19e, elle est fin 18e. Donc, elle est vraiment bien avant 1830. C'est quelques janissaires turcs qui ont menacé mes compatriotes.
Alors, Assia Djebar, vous avez commencé à écrire à l'âge de 22 ans. Mmh. Vous avez publié votre premier roman chez René Julliard en 1957, vous l'avez rencontré. Voilà. Il a été publié peut-être en janvier 57, et c'est à ce moment-là que vous décidez d'écrire, d'embrasser une carrière d'écrivain.
C'est-à-dire, abandonnez
vos projets de jeunesse, peut-être, destinés à une carrière universitaire.
Non. Vous savez, écrire un roman, à mes yeux, c'était pas abandonner l'université.
Oui.
Je crois que le plus important, c'est que j'ai été vraiment très tôt dans la littérature, à, disons 13 ou 14 ans, peut-être même 12 ans, après la sixième, donc j'avais 11 ans. Donc entre 12 et 13 ans, comme l'a dit Pierre-Jean Rémy, tu sais, moi qui lui ai raconté, alors que qu'à ces âges-là, on est encore entre deux niveaux de lecture. Et comme j'étais interne à Blida, et donc avec une amie à moi, que j'ai perdue de vue d'ailleurs, une demi-italienne, demi-française, on est tombé sur la correspondance de Jacques Rivière et d'Alain Fournier, qui est quand même, qui datait des années, enfin c'était leurs lettres qu'ils échangeaient quand ils étaient hypocagneux. Donc 1910 peut-être, entre 1910, juste avant la Première Guerre mondiale. Et donc, ils étaient l'un et l'autre, après ils ont été beaux-frères, mais ils étaient pas vraiment dans la même hypocagne ou cagne. Donc, ils s'écrivaient ce qu'ils lisaient. Et donc, ils étaient tous les deux des lecteurs extraordinaires.
C'était une école
donc,
pour vous.
Voilà. Alors, donc, on a dit, puisqu'ils ont lu ça, on va lire ça. Donc, on a lu ça très tôt. Aussi bien elle que moi, notre amitié a été essentiellement autour des livres. Donc, on lisait finalement des livres qu'en général, on découvre à 14, 15 ans plus tôt. Je crois que ça a été déterminant pour moi, parce qu'à partir de là, je dévorais les livres. Par passion de la lecture peut-être, mais mon père instituteur avait beaucoup de livres. Mais plutôt, je me souviens avoir retrouvé un journal que je tenais. Oui. Où j'avais vraiment décidé qu'à 15 ans, la littérature, c'était comme une religion, quoi, c'était tout. Et je disais, je ne chercherai jamais le succès, je chercherai l'authenticité, enfin voilà.
C'était déjà déterminé.
Oui, ouais. Mais c'est aussi la qualité, parce que quand même, je lisais Claudel, qui à mon sens maintenant, beaucoup de choses, je m'en suis éloignée, mais toute cette atmosphère un peu catholique était ce qui pouvait faire comprendre. Dans ma famille, on n'était pas vraiment pratiquants, mais mes grands-parents, oui, mais austères, disons. Et donc, il y avait, disons, c'était une littérature de spiritualité. Et puis à côté, malgré tout, je lisais Gide, mais vraiment le Gide, pas qui cassait les tabous, parce que même comme ça, je crois que je le comprenais pas vraiment. Et à partir de là, ben, j'ai lu les surréalistes un peu plus tard, parce qu'il n'en était pas question dans ces textes. Peggy, mon père avait évidemment, comment s'appelle, l'historien, tous les livres d'histoire, il avait toute la collection en plusieurs éditions de l'histoire de la Révolution française. Donc Michelet était vraiment presque son livre culte.
Ah, alors lui pas, aimait beaucoup Anatole aussi, France. Ces grands historiens dès votre adolescence.
Enfin, je me souviens aux heures de sieste quand il faisait très chaud dans cet appartement du village. Oui. Bon, nous, les enfants, vous savez, on vous dit du silence parce qu'on va faire la sieste. Alors on avait cette bibliothèque, quoi.
Vous racontez dans un de vos romans, je ne sais plus lequel, justement, deux jeunes filles qui découvrent dans la bibliothèque de leur frère
ça, c'est
une
chez
armoire fermée à clé.
Effectivement,
et
ça c'était à
la
campagne.
La sieste,
ça c'était chez ma tante, qui avait beaucoup, j'avais beaucoup de cousines.
Découvrir des lectures.
Colette, alors là.
Voilà, Colette.
Mais Colette, c'était un cousin beaucoup plus âgé qui cachait ses livres.
Oui.
Alors, quand il n'était pas là l'été, on montait, on ouvrait, on regardait. Je me souviens de ces cartes postales un peu bizarres. On était très choqués, mais on refermait, on disait rien. Voilà. Mais ça, c'est peut-être à 14 ans plus tôt, hein.
Oui.
Voilà.
Et c'est une époque aussi, de toute façon, en France, des gens du même âge s'y découvrent la lecture comme ça, dans les armoires fermées à clé de leurs parents, de leurs aînés.
Mais par la suite, j'ai continué toujours, et je crois que, disons, au niveau du bac à peu près, j'étais restée quand même dans une vraie littérature à mon sens, hein, vraiment. Et donc, alors, par exemple, ça s'est joué en seconde. En seconde, dans des familles dites musulmanes, on voulait toujours que le fils ou la fille fasse médecine ou avocate, enfin, comme toujours. Et moi, bon, j'avais été toute contente parce que je reprenais le quart tous les samedis. Il y avait eu, je sais pas quoi, une petite scène de violence entre un homme et une femme de ma communauté. Mmh. J'ai vu un peu de sang, j'ai tourné de l'œil. Alors, j'étais toute contente. Après, en rentrant, j'aurais dit, alors, vous voyez, hein, dès que je vois du sang, je supporte pas. Alors, maintenant, ne m'embêtez plus, je ferai pas médecine. J'ai fait grec. Et après, je fais ce qu'on appelait l'être pur.
Et dans ces années de lycée, est-ce qu'il y en a un qui vous a donné un choc particulier, un choc émotionnel, plus que d'autres?
Je ne sais pas, parce que j'ai perdu à peu près tout. Mais je prenais des notes de lecture et je les ai perdues. Non, je suis restée entre 13 et 15 ans en voyant que je lisais tout en désordre, en rattrapant un peu le temps perdu. Non, je peux pas dire. Je crois que j'ai gardé un goût effectivement pour Gide, par exemple, mais toujours encore une fois, j'ai mis du temps pour lire les livres un peu différents. La poésie beaucoup, évidemment. Après, évidemment, lorsque vous arrivez en seconde ou en troisième et que vous avez des auteurs vraiment du 19e, bon, si vous les connaissez déjà, vous y re-rentrez. Bon, la poésie me reste, même actuellement, je trouve que la littérature française est surtout exceptionnelle par la qualité de ses poètes.
Quels sont les poètes que vous lisez actuellement?
Oui, je lis Bonnefoy, je lis plusieurs qui sont morts, juste il n'y a pas très longtemps, et on a eu 3 ou 4 qui sont morts. Non, je lis beaucoup de poètes, mais c'est vrai que c'est une poésie dense, c'est plutôt entre la philosophie et la poésie, quelquefois.
Marquons une courte pause musicale et retrouvez Assia Djebar de l'Académie française dans quelques instants sur Canal Académie. Assia Patricia Djebar, en juin 2006, a été reçue en séance solennelle sous la coupole pour vous faire partager ce moment comme si vous y étiez. Canal Académie met à la disposition des internautes la retransmission de cette séance exceptionnelle. Vous pouvez télécharger ou écouter la totalité de cette cérémonie à partir de la médiathèque de notre web radio en cliquant dans la rubrique « En coupole » ou simplement en indiquant le nom d'Assia Djebar au moteur de recherche sur la page d'accueil du site internet de Canal Académie. Assia Djebar nous a décrit son épée et a évoqué dans cette première partie de l'émission son initiation à la littérature qu'elle découvrit dès son plus jeune âge. Lectrice passionnée, elle était, comme elle dit, dans la littérature. Retrouvons-la pour l'évocation de ses études supérieures qui l'amenèrent à quitter l'Algérie pour la France. Après votre baccalauréat que vous passez à
J'aurais dû faire philosophie, voilà.
Oui, je voulais vraiment faire philosophie. Oui, vous étiez au début, je crois.
L'année de philosophie a été aussi pour moi une année importante.
Surtout quand vous êtes arrivée à Paris,
j'ai fait mon hippocagne
à Alger et ensuite à Paris au lycée Fénelon.
En hippocagne, j'avais d'ailleurs des amis à moi qui étaient d'Alger. Des Français, comme on dit, pieds noirs, et qui étaient là pour ma... Alors effectivement, c'est eux qui m'ont rappelé que notre prof de philo, c'était Lamblin. C'était très sartrien, l'ami de Simone de Beauvoir et de... Mais celle qui m'a marqué plus, je l'ai dit dans mon discours, c'est Dina Dreyfus.
Qui était l'épouse de...
Oui, parce que quand je suis arrivée, puis que j'ai rendu mon premier truc, elle a pris un ton très, très méprisant. Enfin, en disant, mais où est-ce que vous avez appris? Ça, c'est de l'histoire de la philosophie, c'est pas de la philosophie. Donc, elle nous faisait... Alors ça, c'était formidable. Elle m'a rappelé, tout simplement, mon école coranique. Parce que à l'école coranique que j'avais le soir, quand j'étais toute petite, on apprenait par cœur.
C'était pour l'exigence.
Et je vous assure, la cagne, dès le début, tout un trimestre, on est resté que dans des cartes et on avait à l'apprendre par cœur. Et moi, j'ai trouvé que c'était formidable comme ça, parce qu'à ce moment-là, on a appris à penser et non pas à faire des résumés de... Parce que très souvent, la première année de classe de philo, je ne sais pas maintenant ce qui se fait, mais à l'époque, les professeurs résumaient, ils distinguaient un philosophe d'un autre. Et puis, vous aviez quelques citations du philosophe et puis pas plus. Mais elle a dit, c'est pas ça. Apprendre les philosophes, c'est apprendre à philosopher. On a eu donc vraiment les méditations de tout le premier trimestre qu'on apprenait, elle vérifiait, et sur lequel on planchait, on avait des interrogations écrites, et tout le second semestre, la critique de la raison pure. Je dois dire maintenant, je serais bien incapable de, puisque j'ai quitté cette discipline. Mais pour Descartes, ça a été tellement formidable pour moi, même au niveau de la langue. Et je me souviens mon émotion quand je suis arrivée, mon premier voyage en Hollande.
Oui.
J'étais transportée parce que Descartes avait habité là, s'était réfugié là, et puis après en Suède, j'y ai repensé à lui.
Et vous y aviez été jeune aussi en Hollande de ce voyage?
Non, 10 ans après, mais je veux dire, les textes restaient.
En mémoire, cette émotion.
Il y a des auteurs comme ça qui vous restent présents comme si l'ombre vous suit. D'ailleurs, c'est peut-être ça aussi que j'ai aimé quand je suis arrivée en Cannes, ici en France. C'est que vraiment, et puis j'étais au Quartier Latin, vous savez, on avait, à l'époque, ça s'appelait le lycée Auguste Comte.
Oui.
Et donc, il y avait le premier étage où on mettait les cagneuses qui venaient de province, et moi donc d'Afrique du Nord.
Vous étiez au pensionnat.
Et on traversait, oui, pour aller à Fénelon, on traversait tous les jours. Alors ça, c'était royal, comme première présence à Paris.
Vous étiez dans un beau quartier.
Oh, vraiment. Et puis en même temps.
Dans les années 50.
Bon, oui, puis on travaillait, l'année de Cagnes. Et je l'ai passé d'un coup, et grâce, effectivement, à mes notes de philosophie, j'ai eu des notes assez exceptionnel. Donc les gens sont venus regarder. Moi j'ai cru qu'ils venaient me regarder parce que
Vous aviez le droit de sortir le week-end ou comment
oui,
ça se passait?
Oui, alors mon père était venu.
C'était assez strict à l'époque.
Oui, et puis mon père était venu parce que je crois que c'était le proviseur de Bugeaud, on appelait ça Bugeaud, qui lui avait dit Elle a des chances. C'est-à-dire, il y avait une cagne à Alger, mais récente. Et le proviseur lui a dit entre deux, comme j'avais eu le prix d'excellence, etc., il lui a dit, si vous acceptez de l'envoyer à Paris, je pense qu'elle sera de taille à rentrer, à intégrer. Alors, mon père a fait cela, il m'a accompagné, puis il a parlé avec la directrice, elle a un correspondant, il m'avait donné un correspondant qui était un ami à lui, marié à une Française, d'ailleurs pas très loin de là-bas. Je suis allée une fois, mais j'avais déjà un fiancé caché. Alors, le dimanche, on passait tout notre temps sur les grands boulevards à voir des films américains, des choses comme ça. Il m'est arrivé de rentrer tard. Et quand je rentrais tard, elle était affolée. C'est comme ça que j'ai su que mon père lui avait dit, mais vous savez, elle a un correspondant pour sortir. Mais il n'empêche que, effectivement, une fois que j'ai intégré, j'ai envoyé le télégramme en disant, ça y est, le contrat est
rompu.
Non, le contrat est tenu. Oui. Dès la première année, pas la deuxième. Et puis, quand je suis rentrée à Alger, je lui ai écrit une longue lettre pour avouer toute ma vie cachée qui me paraissait, je suis allée chez mon oncle, la Cherchel, pour laisser passer sa colère. Et avec tout ça, c'était quand même quelqu'un dont eux connaissaient, les familles se connaissaient. Oui. Mais enfin, moi, j'avais l'impression à chaque fois que, mais j'étais que dans les livres.
Mais toutes
en
les
fait.
Jeunes filles, non pas toutes les jeunes filles, 55. Mais beaucoup de jeunes filles des années 50 étaient ces jeunes filles sages que vous évoquez. Voilà.
Et j'ai gardé aussi, alors après je suis rentrée à Sèvres, c'était la première année où Sèvres n'était plus à Sèvres.
Alors vous avez intégré Normale Sup.
Oui, boulevard
Sèvres.
Jourdan, donc la première année c'était boulevard Jourdan.
Oui.
55-56, octobre 55, j'ai gardé de bons souvenirs parce que j'avais tout de suite dit, étant donné mes notes de philosophie, la directrice, Madame Prenant, m'avait dit, j'espère que vous allez faire de la philosophie. Je lui ai dit, malheureusement, non, parce que l'arabe classique, j'aurais voulu travailler
là,
sur Ibn Rushd à Véroès.
Oui.
Et je lui ai dit, mais vous savez, je n'ai pas de formation en arabe classique. Si elle m'avait dit, ma vie aurait été changée, si elle m'avait dit, mais vous savez, dans les 4 ou 5 ans que vous allez passer à Sèvres, vous avez une année à l'étranger. Si elle m'avait dit, on vous envoie, je ne sais pas, à l'époque, à Damas ou au Caire, et vous rattrapez le retard, je l'aurais fait. Tellement ça me coûtait de ne pas être dans la philosophie. Et d'autant plus que vraiment, j'avais eu des notes exceptionnelles. Et elle n'a pas pensé à me le dire, parce qu'en général, on fait ça en deuxième ou troisième année. Alors, elle a dit, alors vous allez faire philosophie. Puis elle était spécialiste de, je crois, elle était philosophe, spécialiste, j'ai oublié. Mais bon, donc je lui ai dit, ben non, je ne vais pas faire philosophie parce que je voudrais faire à Véroès.
Et vous n'avez pas pensé. Enfin,
alors,
il n'y
avait pas
de cours d'arabe
Paris
entre les langues c'était des cursus différents.
Elle aurait pu vous. C'est-à-dire, vous pouvez pas tout. Alors, moi, je m'imaginais que tout de suite on allait au texte, comme quand j'avais fait pour Descartes ou par Kant, mais la traduction. Mais par exemple, elle, qui pourtant était philosophe, je l'ai su après 3-4 ans après, quand même je suis retournée à Véroès, mais à cause de Ibn Arabi. Et donc, je me suis rendu compte qu'à cette époque-là, la plupart des textes sur lesquels on étudiait à Véroès, c'était les traductions latines.
C'était les traductions, c'était pas sur les textes arabes.
On trouvait rarement les originaux. Et après, j'ai compris que c'est depuis un certain temps qu'on arrive à retrouver des originaux. Donc, même moi, j'ai mal raisonné.
Vous quittez la France en 1958, à la suite d'un mouvement de grève auquel vous avez participé.
Oui, donc n'oubliez pas qu'en 55, moi, je passe mon concours en juin 55, enfin, les résultats. Donc, je crois que c'est 54, ça faisait déjà la première année où il n'y avait pas d'effet visible, la première année.
De la guerre.
Voilà. Et puis, à partir d'octobre 55, bon, on sent que même dans les villes, ils sont concernés. Et je crois que donc, 56, au moment, alors, 55-56, j'ai suivi les cours comme tout le monde. J'étais très amie avec Jacqueline Risset, qui, elle, n'était pas historienne. qui hésitait elle aussi. Elle savait pas encore qu'elle allait faire de l'italien, donc elle était plutôt dans la littérature française. J'allais pas souvent, parce qu'une fois qu'on a tellement travaillé en Cagne, j'allais pas beaucoup au cours de Sorbonne, de temps en temps, pas plus. Et donc, en mai 56, il y avait un organisme qui s'appelait l'UGMA, l'Union des étudiants musulmans. J'y allais pas, mais j'avais ce fiancé qui connaissait, qui allait, qui me rapportait. Ils ont décidé un ordre de grève des examens. Donc voilà que on était peut-être à l'époque 6 ou 7 Algériens à être dans les grandes écoles. Et comme être dans les grandes écoles, c'est avoir un statut de fonctionnaire tout en étant étudiant, ils avaient dit, bon, je crois qu'ils avaient quelque chose comme peut-être à l'époque, je ne sais pas, 300 étudiants algériens.
Au total.
Voilà. D'où 7 ou 8 qui étaient dans les grandes écoles. Ils avaient dit, bon, ben, pour les grandes écoles, vous faites ce que vous voulez. Ou vous vous considérez comme fonctionnaire, on vous dit pas de perdre votre place. Ou bien vous considérez comme étudiant. Alors, moi, vous savez, j'allais avoir 20 ans, j'avais 19 ans. Moi, dans ces cas-là, on est toujours, j'ai réfléchi, j'ai dit non, je suis algérienne avant d'être normalienne, évidemment, donc je vois pas pourquoi je vais. Moi, je me souviens, il y avait une conférence de Mauriac. J'étais très liée avec, j'aimais beaucoup le, il est devenu cardinal après, Daniel Lou. Celui qui s'occupait des catholiques, mais qui organisait beaucoup de
conférences.
Qui amenait de grands écrivains. Mm-hmm. Il avait amené, je me souviens très bien, une conférence où il avait amené Mauriac. Mais c'était l'époque où les Français avaient réglé la question du Maroc. Le sultan était là, donc Mauriac arrive. On ne parle que du Maroc. Pour une fois, il y a à la fois les garçons de la rue d'Ulm et les française. Et moi, à la fin, je me sens obligée de lever le doigt pour dire, bon, monsieur Mauriac, vous avez parlé beaucoup du sultan, et que pensez-vous
de ce qui se passe en
Algérie? Oui, ça devait être janvier 56. Et puis, il m'a répondu, ah non, mais l'Algérie, c'est différent. L'Algérie, je vous assure, parce qu'après, dans son bloc-notes, on ne voit que comment il a bougé.
Oui.
Mais moi, j'étais horriblement déçue et un peu vexée. Puis j'étais horriblement timide aussi. Donc, d'avoir soulevé la question de l'Algérie en plein comme ça devant 200 personnes. Ah, il a dit, mais non, c'est pas du tout pareil. Le Maroc, on les rétablit dans leurs droits, comme c'est. J'ai rien dit, puis j'ai dit, j'irai plus haut. J'ai commencé comme ça un peu à me détacher. Je dois dire aussi que toute cette année-là, les Sévriennes faisaient passer des pétitions contre la guerre en Algérie. Alors quand elles venaient chez moi, je me souviens, mais je peux pas être dans le corps du texte et en même temps dans la signature. Si je signe, c'est que je suis comme vous, française, mais moi je suis algérienne. Donc vous voyez, je me préparais comme ça, après à choisir, non, ben je fais grève. Alors tant que c'était Madame Prenant, j'ai continué Alors c'est aussi pour ça, quand on est historienne à l'époque, on allait au cours, mais en réalité on travaille 2 mois avant très très fort pour passer tous les examens. Donc voyant que j'allais pas passer mes examens, Madame Prenant a dit, bon, c'est un cas de conscience, je me débrouillerai avec l'administration. Donc j'ai fait mon année de 56 et mon année de 57. J'ai fait 2 ans sans passer d'examen et aussi après sans aller au cours.
Oui.
Mais pour en revenir à pourquoi j'ai écrit mon premier roman, c'est parce que tout simplement j'étais là, je vivais en communauté avec le groupe des historiennes, on disait.
Oui.
Et puis je voyais qu'elles allaient travailler, vous savez, on veillait 2 heures du matin tous les soirs. Oh, je dis, moi je vais pas rester sans rien faire. Je dois dire que le fiancé avait déjà une activité un peu, il était recherché par la police, il avait une activité un peu comme ça, dangereuse, le fait d'être arrêté. Et donc, je crois qu'il est reparti sur Alger, Et donc, avant de partir, il m'a dit, oh, il n'y a pas longtemps, tu as dit qu'un roman, comme les romans un peu à succès qu'il y avait à l'époque, c'est facile à écrire, ça s'écrit en un mois, deux mois. Je lui ai dit, oui, je le dis toujours. Si c'est pour écrire des romans comme ça, on s'y met, c'est comme une longue rédaction, on invente n'importe quoi et on l'écrit. Il m'a dit, alors chiche, au lieu de... Je lui ai dit, oui, ça tombe bien, c'est ce que je vais faire pendant que... Et quand il est revenu, un mois ou deux mois après, je crois qu'en deux mois, j'avais écrit La Soif, je lui ai dit, voilà, j'ai parié, mais je l'ai fait. Et c'était un livre où c'était totalement un exercice de style pour savoir si je tiens la route sur un... Alors c'est lui qui a dit, oh, ben alors je vais l'envoyer au... Ah, ben, il l'a envoyé à ma place. Moi, je l'aurais pas envoyé à Julliard. J'avais déjà connu. Parce que avant ce texte, je devais travailler quand même par l'écriture, parce que j'avais écrit un autre texte, alors qu'il, lui, devait se passer au maquis ou je sais pas quoi, ben, naturellement. Et je l'avais envoyé au Seuil, parce que beaucoup, je crois que, peut-être parce que Dib était sorti au Seuil.
Ouais.
Et c'est comme ça que m'avait convoqué Chodkiewicz, celui qui après était directeur, mais qui à l'époque était un simple lecteur. Alors il a regardé mon texte, il était étonné de savoir que j'étais à Sèvres, et puis il m'a dit, il m'a fait quelques remarques en disant, vous savez que peut-être, je me souviens très bien, il m'a donné un roman allemand d'une jeune femme, en disant, peut-être qu'il faut prendre un peu de distance par rapport à l'actualité, ça pourrait vous libérer. Donc j'ai écouté tout ce qu'il m'a dit, j'ai pris le livre, et puis j'ai pas jeté, j'ai dit, bon, allez, ça c'est pas bon. Il a pas voulu me dire carrément que c'était pas bon. Et depuis, j'ai retrouvé ce texte, donc j'avais écrit, disons, 8 ou 9 mois avant. Donc, n'empêche que ça me travaillait peut-être,
oui. Hein,
maintenant j'essaye de me rappeler, c'est tellement loin. Finalement, bon, ben celui-là, ben je l'ai, à un moment donné, je l'avais perdu, je l'ai retrouvé, puis maintenant je sais plus où il est, j'ai même oublié le titre. Parce que quand il m'a dit, je l'ai quand même resserré. Il m'a dit, faites-en une longue nouvelle et on le sortira dans une de nos revues. J'en ai fait une nouvelle et puis je l'ai pas envoyé. J'ai dit non, c'est mauvais. Il a voulu prendre les gants avec moi. Donc je reste 2 ans.
Oui.
Et pendant 2 ans, je ne vais pas au cours, je lis beaucoup.
Vous écrivez?
Non, je n'écris pas, parce que j'étais pas encore dedans.
D'accord.
Le livre, je signe le contrat en 55, en octobre 57, avec chez Julliard. Et puis, il devait sortir en janvier. Je me souviens que, en fait, j'ai mené une vie un peu comme ça, à suivre ce fiancé qui, lui, avait une vie un peu dangereuse. Dangereuse parce que c'est le début des divisions entre le MNA et le FLN. Donc, quelquefois, j'étais dans ma chambre, et puis on me téléphonait, on disait, on vous appelle au téléphone, et puis c'était toujours une voix anonyme de gens qui me disaient, l'étudiant avec qui vous marchez, avec qui vous sortez dans les rues, eh bien, vous pouvez lui dire qu'on aura sa peau. Et j'ai compris que c'était entre Algériens que ça commençait. Donc j'étais complètement dedans, mais dedans d'une drôle de façon, comme si c'était, vous savez, un milieu bizarre. J'y étais pas, je me suis pas... Et puis le fiancé, quand même, voulait toujours me laisser éloigner. Mais tout ça, c'est parce qu'on avait encore les traditions, les femmes ne voient pas les hommes. Enfin, il y avait des choses comme ça. C'était pas pensé dans ma tête, ah non, je veux... Et de notre côté, je me souviens donc, en janvier 57, commence la bataille d'Alger. Moi, je sors ce roman très, très, je dirais, très anodin, si vous voulez. Mais je savais bien que je voulais juste avoir un certain ton, et puis savoir est-ce que je suis capable de mener une intrigue qui intéresse les gens. Et puis j'ai eu un prix qui s'appelait le prix de l'Algérienne. Je suis allée le recevoir devant des gens... qui aurait pu être mes pères ou mes grands-pères, et puis pas plus. Et à ce moment-là, donc on est en 57, elle est toujours là, Madame Prenant, elle me dit, vous ne passez toujours pas vos examens? Je dis, non, je ne passe pas mes examens. Elle m'a couverte encore en 57. Je crois, je ne sais même pas si j'ai commencé à ce moment-là, c'est en 58, oui, c'est en... Alors, je n'étais pas encore partie de Sèvres. Arrive Madame Marie-Jeanne Durie, parce que en 58, vous savez, donc De Gaulle arrive, on met à la retraite Madame Prenant, et arrive Madame Durie, qui un jour me convoque en découvrant que depuis 2 ans, je passe pas d'examen, mais qui dans son bureau me met en demeure. Ah non, hein, ou vous passez vos examens ou vous êtes dehors. Ah bon, si c'est comme ça, ben je pars. J'ai attrapé une... À l'époque, j'avais souvent comme ça des colères. Ah bon, ben, vous savez, il n'y a pas que votre école normale supérieure, hein, j'ai dit. Et puis de toute façon, je suis passée par la grande porte, vous ne m'avez pas fait de cadeau, j'ai passé le concours, ben je pars par la petite porte. Voilà, quelque chose comme ça, un peu d'insolence, mais... Parce qu'effectivement, quand je suis sortie, j'ai dit, le monde est grand, et puis il y a tellement de choses qui se passent là-bas, de l'autre côté, puis toi tu es en dehors.
Donc là, vous retraversez la Méditerranée?
Non, ça s'est pas passé comme ça.
Vous passez d'abord, en Suisse,
Madame Prenant m'a fait convoquer, explique qu'on n'a pas le droit de me mettre dehors, que c'est un concours d'État. Mmh. Elle était près du Panthéon, elle téléphone devant moi au directeur de la rue d'Ulm. Allez-y maintenant. J'étais un peu revêche comme ça, je savais pas ce que je voulais. Donc je suis allée, la seule fois où je suis rentrée à la rue d'Ulm, c'était pour voir monsieur, c'était un philosophe assez connu, j'ai oublié son nom.
Vous n'avez été qu'une fois dans la...
Et donc il m'a dit, mais madame, je peux vous dire que c'est illégal, on ne doit pas vous retirer votre... C'est un concours d'État. Est-ce que vous me promettez, quand vous allez sortir, d'écrire une lettre que vous enverrez au Conseil d'État? Maintenant, j'ai le mari d'une amie qui est au Conseil d'État. Alors moi, le Conseil d'État, ça me paraissait une chose... Je lui ai dit oui, je le ferai. Puis en même temps, intérieurement, je dis, je sais pas, quelle importance. Vous savez, je commençais quand même à lire les journaux, à voir les morts, à voir les choses comme ça. Donc ça me paraissait, ma vie me paraissait un peu petite. Donc je sors, je me souviens très bien, j'ai marché le long de la Seine, par là. Et puis, je crois que c'est à ce moment-là qu'en ouvrant le journal, j'ai vu qu'il y avait des exécutions de guillotinés. Je me souviens, à Lyon, à une prison lyonnaise. Oh, j'ai dit maintenant, même en France, c'est venu. Alors, pourquoi tu restes? Voilà, sur cette décision, j'ai dit, bon, eh ben, je suis rentrée, j'ai dit à comment elle s'appelle, Jacqueline Risset, je vais mettre toutes mes affaires dans une malle, et puis tu me les gardes, on verra bien quand je viendrai. Je suis jamais allée retirer cette malle, je sais même pas ce qu'il y avait. Peut-être toutes mes notes. Et puis, le fiancé avait...
Et là, quand vous partez, vous êtes en lien avec votre père, votre mère,
Non, je me souviens pas. J'ai dû quand même leur dire, et comme je les avais pas consultés, peut-être mon père aurait dû dire non. Ils avaient sur les bras le frère qui était monté au maquis, qui avait été arrêté. Il était comme infirmier, on l'avait arrêté sans arme. Donc mon père était en train d'essayer de le faire sortir, ils me l'ont envoyé. Et puis naturellement, il était à la cité universitaire, mais très vite, il a replongé dans le mouvement FLN. Et moi, j'étais en dehors, j'avais d'une part le fiancé, de l'autre. J'ai décidé qu'il fallait qu'on se marie, enfin le fiancé a décidé qu'il valait mieux qu'on se marie et qu'on quitte la France.
Marquons une courte pause musicale et retrouvez Assia Djebar de l'Académie française dans quelques instants sur Canal Académie. Venons d'entendre Assia Djebar raconter ses années d'études à l'École normale supérieure de Sèvres, son engouement pour la philosophie, mais aussi ses rencontres, ses amis et son fiancé caché, son premier roman, La Soif, dans le contexte particulier des années 50 et la guerre d'Algérie. Retrouvons-la, cette fois, à nouveau de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Assia Djebar raconte dans la partie de cet entretien la suite de son séjour en Tunisie, sa vie au Maroc, sa rencontre avec Charles-André Julien, son enseignement de l'histoire et son troisième roman, Les Enfants du Nouveau Monde. Elle parle de Jean Daniel dans ces années-là, qui, à l'occasion d'ailleurs de son accueil parmi les immortels de l'Académie française, a présidé son comité de l'épée. Retrouvons son regard distancié sur sa vie de jeune femme et sur l'histoire. Écrivain, journaliste, historienne ou les trois à la fois. Retrouvons Assia Djebbar.
Et figurez-vous, on a trouvé comme appartement pour se marier rue Alexandre Dumas, c'est curieux, je vous assure. Et je me retrouve dans l'appartement assez extraordinaire de ce qu'on appelle un libraire en chambre. C'était le premier.
Racontez-nous.
Oh, c'était formidable, il est mort ce libraire. Ce libraire était le premier Français qui a été arrêté pour complicité avec le FLN.
Il avait été arrêté à Paris.
Oui, oui. Et donc... comme moi, on voulait se marier, mais que le fiancé était en position irrégulière, c'est-à-dire il n'avait pas fait son service militaire. Donc, quelqu'un lui avait dit, vous pouvez vous installer dans cet appartement, parce que puisque la police est venue là, elle ne viendra plus. Je me suis installée là, et puis alors il a fait les choses très protocolairement, à ce moment-là, ses parents et mes parents ont fait le mariage à Alger. Parce que dans l'islam, les mariés ne sont pas forcément présents. Chacun a un tuteur. Mm-hmm. Donc officiellement, je me suis mariée en janvier 58. Et naturellement, ma mère, la pauvre, avec ma sœur, toute petite, sont venues pour faire les choses comme si on était à Alger. Voilà, ça c'était... Et puis après ça, on a décidé qu'il fallait passer de l'autre côté et aller en Tunisie.
Tous les deux, donc avec
on
votre
fiancé. Je crois que c'est parce que c'est lui qui avait dit un bonjour, il est venu, il a dit on se marie, puis après on part, mais parce qu'il ne voulait pas partir sans que...
Donc là, vous le suivez en quelque sorte.
C'est ça, je suis la femme de monsieur. Mais entre-temps, j'ai écrit, je me souviens, alors je voudrais parler de cet appartement en chambre. C'est à ce moment-là que j'ai lu beaucoup de livres que je n'avais pas lus. Je me souviens, il avait toutes les éditions de Céline. Évidemment, j'ai lu les très beaux, mais j'ai lu des trucs horribles, mais toujours en
belles éditions.
Oui, originales. Et puis j'ai lu beaucoup, mais en même temps, j'ai dit bon, je vais me mettre à écrire un deuxième. Je l'ai écrit aussi rapidement que le premier. Ça s'appelle Les Impatients. Je l'ai donné à Julia, et puis je suis partie. Et puis après, par contre, quand je suis arrivée là-bas, je dois dire que j'avais vu sous mes yeux les rivalités entre le FLN et le MNA. Et que vraiment, même avec, disons, ma jeunesse, je trouvais ça débile. Et bon, je savais bien que c'était des chefs au départ, mais bon. Et donc, voilà, quand
pourtant,
je suis arrivée...
Pourtant, le danger ne vous impressionnait pas.
C'est
vraiment
les
rivalités que vous trouviez stupides.
Oui, en fait, pas stupide, mais j'étais révoltée. Bien sûr. Et en même temps, je savais, par exemple, on avait pris le train pour voir Ferhat Abbas, justement, qui était un ami de mon père. Et puis, on est revenu. Et quand on est revenu, on avait la police derrière nous qui nous suivait. Et moi, c'était pas la police qui me préoccupait, la police française. Il n'avait qu'à l'arrêter s'il avait voulu. Mais peut-être qu'il l'arrêtait pas parce qu'il pensait qu'ils allaient tomber sur d'autres.
Ouais.
Alors nous, on se promenait quelquefois, je dirais en amoureux, on se disputait tout le temps. Alors on se disputait des heures, et pendant qu'on se disputait, quand je rentrais le soir, c'était l'autre partie du MNA qui m'appelait pour dire « on va avoir sa peau, on va le tuer », etc.
C'était un amour...
Non, c'était romantique. Mais je me disais, il n'a qu'à... Alors, si tu vas au maquis, moi aussi je vais au maquis. Mais pour le suivre, quoi, c'était pas, j'avais pas... Alors finalement, quand il a vu tout ça, il a dit, allez, on quitte la France. Alors voilà, et puis quand on est arrivé en Suisse, après on est allé à Rome, à partir de Rome, il fallait attendre, Et puis une fois qu'on était à Tunis, moi j'ai demandé à enseigner tout de suite, parce que je voulais pas dépendre des autres. Et
donc là,
j'avais
vous travaillez.
Puisque quand même, oui, j'ai travaillé, je suis allée proposer des trucs à la radio tunisienne. Et puis on a loué un tout petit studio. Mais je sais que je suis revenue, donc je passais mon temps entre la Tunisie et Paris. Mais on me disait, il faut aller prendre l'avion à Rome et après prendre le train. Et alors j'avais cette expérience terrible que à chaque fois que je prenais le train, soit pas pour rentrer, on me laissait rentrer, mais pour sortir, la police française me faisait descendre. Parce que, en ouvrant évidemment, en voyant mon nom, en voyant que j'avais mes papiers pour aller à Tunis, etc. Ça, c'est quand j'étais seule. Donc, ils me faisaient descendre pour tout contrôler. Alors, vous saviez l'impression que j'avais de passer devant un long, long truc avec les flics, et puis ils me faisaient passer la nuit. Et quand ils voulaient me fouiller, je disais, une femme, sinon vous me touchez pas, je veux pas qu'on me touche. Enfin, j'ai eu tous ces trucs un peu ridicules. Et je crois qu'une fois, il y avait le livret militaire du mari. Donc, ils m'ont fait descendre, ils m'ont dit, puis je disais, oui, il est à Tunis, il rentre plus. Et vous, demandez à Monsieur Julliard, le pauvre René Julliard. 3 fois, 4 fois avant 62, il recevait des télégrammes de la police de la frontière et moi j'étais entre 4 murs. Et quand on voulait me fouiller, je disais une femme et on a amené une femme. Je connaissais quand même un peu mes droits. Et quand le plus drôle, c'est, je me souviens maintenant, un jour il faudra que je raconte tout ça. Quand j'ai reviré à Rome, j'avais des adresses de couvents de bonnes sœurs. Parce que Rome était une ville très dangereuse. Il y avait ce qu'on appelait la main rouge, c'est-à-dire il y avait les extrémistes aussi, disons, pieds noirs ou enfin. Ouais. Et il y avait eu déjà 2 ou 3 leaders d'Afrique noire qui avaient été assassinés à Rome. Alors on me disait surtout à Rome, ne va pas dans des hôtels. Je disais non, non. Et quand je venais à Paris, alors j'allais chez des sœurs blanches. Qui avait un foyer d'étudiantes africaines.
Alors, Assia Djebbar, en Tunisie, vous allez vous lancer dans une carrière de journaliste, vous allez abandonner...
J'ai pas fait ça longtemps, parce que j'ai vécu peut-être 1 an et demi. Mais moi, je voulais dépendre que de...
Vous vouliez...
Dépendre que du... Que de... Comment il s'appelle, l'Antillais, de Fanon.
Fanon. De Frantz Fanon.
Parce que Frantz Fanon, quand je suis arrivée, mon père le connaissait.
Vous voulez dire par « je ne voulais dépendre que... »
Oui, parce que moi, je ne voulais pas être dans un truc politique.
D'accord.
Vraiment. Et puis surtout, plus j'étais à Tunis, et plus je voyais que c'était devenu, je disais, ça c'est comme les Français qui vont à Londres, et qui au départ ne voient que le grand chef et 2 ou 3 personnes, et après, on voit qu'il y a tout un tas d'arrivistes et de... Et vous savez, j'étais jeune femme. Et donc, on avait encore ce côté de...
Je parlais qu'en français. Vous aviez une sérieuse formation d'historienne, déjà, quand même.
Eh bien, le seul qui m'en a parlé... Ah non, et puis, ah non. Ah non,
non, vous n'aviez pas l'application.
On me regardait d'un air condescendant, parce que j'avais écrit des petits romans, me disait-on, au lieu... Mais quelquefois, il vous le disait carrément, mais je n'avais pas compris qu'il y avait beaucoup de misogynie là-dedans. Il disait, mais puisque vous avez fait de l'histoire, pourquoi vous n'avez pas écrit un livre d'histoire sur ce qui se passe actuellement. Ben, je disais, ben, il y en a beaucoup d'autres qui l'écrivent. Et puis moi, j'étais pas du tout honteuse d'avoir écrit La Soif. Je savais que c'était un point de départ. Après, quand j'ai écrit Les Impatients, c'était déjà un peu plus ma société, mais je m'approchais petit à petit. Je savais bien qu'il fallait quand même, au début, être un bon artisan. Puisqu'il m'agressait, enfin, il m'agressait pas. Tout ne devait être que politique. Donc, je me recroquevillais sur ma fierté, je leur parlais pas, et puis je ne parlais qu'en français aux compatriotes.
Ça ne devait pas beaucoup leur plaire, ça, quand même.
Non, mais on était, comment dire, vous savez, vous dites même les Français, les années 50, comment c'était. Alors, imaginez des Français, des Algériens de culture musulmane, ils avaient pas l'habitude de jeunes filles, de jeunes femmes. Mais par contre, alors là aussi, je voyais le jeu dès qu'il y avait une Française dite de gauche et qu'il y avait un garçon algérien aux yeux bruns, elle le voyait tout de suite en révolutionnaire. Et moi, je voyais tout de suite en lui parlant qu'il était n'importe quoi. Moi, j'avais mon regard libre et critique sur les miens parce que je les idéalisais pas. Et beaucoup d'Européennes, pas seulement Françaises, quand elles étaient là pour la bonne cause, mais en même temps, évidemment, ça faisait des histoires d'amour et des choses comme ça. Et moi, je voyais tout de suite l'envers du décor. Je disais, oh, ça devait être comme ça, les Français de Londres. Il y en a un qui est un vrai, et puis il y en a 10 qui sont là. C'est pour dire aussi que j'avais une position, on dit toujours que là, Monsieur Jean-Pierre Jean-Rémy a dit avec beaucoup de sympathie que j'avais une vie romanesque. Je ne crois pas que j'avais une vie romanesque. J'arrivais à déceler, mais j'étais tellement enfermée, d'abord, parce que même ces étudiants...
En fait, vous arriviez à prendre de la distance.
Je prenais la distance, mais d'une façon raidie. J'étais raide. considérais des pimbèches. Enfin, on pouvait me considérer comme une pimbèche par rapport à mes aux gens de ma génération, ouais. Parce que ni eux ni moi, on était habitués à une mixité. Ouais, j'avais aussi. Jamais été
ni vous,
avec
ni eux.
Voilà. Non, en même temps, il disait elle écrit des petits romans, des romans qu'il lisait pas, mais puisque ça n'avait pas ça n'était pas lié aux héros, et moi les héros, je les cherchais hein, j'aurais bien voulu, mais je les voyais pas les héros, ils étaient tout simplement de l'autre côté.
Vous consacrez à l'écriture du cinéma, à adopter une nouvelle forme d'expression.
Ça, c'est bien plus tard.
C'est bien plus tard, oui, oui. Mais on a sauté une petite, enfin une grande étape.
Oui, parce que sinon, on est là trois
ans. C'est pour ça, je suis désolée d'avancer aussi vite. Mais pourtant, la signature des accords d'Évian, votre rencontre avec Massignon, Berck, tous ces gens qui vous ont aussi quand même...
Alors, si vous voulez, je suis revenue...
Formée. Oui. Pas formée, si je crois vraiment, mais...
Je suis revenue de Tunisie pour passer tout, c'est-à-dire on a levé la grève en 58.
Donc
en
quand
octobre.
Vous arrivez en Tunisie, vous écrivez pour Al-Mujahid ou pas?
Au départ, non. Il
Au
fallait
départ,
gagner
non.
sa vie. Donc je Donc suis allée voir la radio tunisienne
oui.
et j'ai fait une série de d'émissions
oui.
sur la littérature maghrébine de l'époque.
Oui. Oui.
Alors ça me permettait de commencer à être indépendante. Deuxièmement, j'ai passé tous mes à l'époque c'était possible. J'ai passé mes 4 certificats de licence en même temps en revenant.
Ah, vous reveniez pour les passer.
Bien sûr, j'ai passé mon temps.
Vous êtes vraiment grande spécialiste de ces allers-retours.
C'est pour ça que je vous en parle.
On comprend bien que dans vos romans, vous êtes une grande habituée, effectivement.
Et puis, donc je les ai passés. J'en ai passé 5 d'un coup, j'en ai réussi à 4. J'ai échoué avec Monsieur Dresch en géographie parce que je ne savais pas faire les coupes. J'étais pas allée en cours. Les autres, j'avais pas besoin d'aller en cours. Et aussitôt après, donc, à Tunis, je demande d'aller au lycée, le principal lycée tunisien, mais en langue française, parce qu'à l'époque, quand on faisait son diplôme, il fallait aussi faire 2 mois d'enseignement. Alors, au moment de retourner à Tunis, je veux faire un diplôme en mystique féminine, de femme, du Maghreb. C'est ça qui m'intéresse, c'est pas la révolution avec un grand R. Et je vais voir Massignon. D'abord, j'ai oublié comment s'appelait cet historien qui faisait quand même l'histoire chrétienne. Et il me dit, bon, moi, je veux bien vous patronner pour les papiers, mais il faut que vous alliez voir Monsieur Massignon, parce que moi, l'islam, j'y connais rien. Donc, je suis allée voir Monsieur Massignon, rue Madame, et on a parlé. Je lui ai dit que je rentrais à Tunis. Il m'a dit, vous allez voir mon correspondant là-bas, qui était un homme extraordinaire, le directeur de la grande bibliothèque de Tunis. Hassan Hosni Abdelwahab. Et puis, vous verrez avec lui, je lui ai dit, je crois que d'après ce que j'ai lu, j'ai envie d'avoir des textes anciens qui racontent comment sont racontés les miracles des saints.
Oui, vous travaillez
voilà.
sur une
J'ai
sainte.
Travaillé sur une patronne de Tunis, Aïcha Al-Manoubia. Et vraiment, ça m'a passionnée. J'ai pris un texte et je suis allée au sanctuaire. Mais le sanctuaire... Eh bien, Monsieur Bourguiba était passé par là et avait fermé tout. Tout ce qui était les marabouts, pour lui, c'était... Alors même là, vous voyez, les gens me regardaient. Elle veut faire de la mystique pendant que. Ben j'ai fait la traduction de mon texte. J'aimerais bien y retourner. J'ai perdu mon texte. Je lui ai envoyé. Je l'ai passé. Donc, mais en même temps, voilà. Ça, j'ai fait ça 1 an et j'ai enseigné auprès des jeunes filles tunisiennes, mais pour 3 mois à peu près. Après quoi, une parente d'élèves est venue me voir et pour me rendre plaisir, elle me dit qu'elle a alloué une belle maison à Sidi Bou Saïd et que vraiment, si j'acceptais d'y aller, ah, j'ai dit, j'ai pas assez d'argent pour une grande maison pour louer. Non, 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 ce que vous voulez, ce que vous pouvez, je me souviens. Alors, nous voilà habitant Sidi Bou Saïd. Et à ce moment-là, après avoir été quand même, je suis allée aux
là,
frontières.
Là, vous avez dû trouver une certaine sérénité.
Oui, vraiment, j'ai passé un été
pendant ce moment-là.
Et voilà.
Et alors, vous lancez dans le cinéma
non,
à quel
après,
moment
non,
bien
non,
après
Non, à l'époque, je vais vous dire, il y avait un projet de cinéma, mais c'était le mari qui devait être cinéaste, c'était pas moi. Donc moi, le cinéma, lui, le cinéma, moi, le moi le roman. Oui. Et puis surtout cette thèse, enfin pas cette thèse, ce diplôme d'études supérieures, je l'ai fait. J'ai vécu, j'ai bien connu, je pense, le milieu des Tunisiens. J'ai fait une.
Oui, vous avez dû connaître aussi les intellectuels ou artistes algériens en exil au même endroit, non?
Alors, à ce moment-là, il y en avait pas encore beaucoup. Ils passaient, puis ils allaient en Yougoslavie pour, on voyait passer les gens pour aller dans des bourses. Oh. D'ailleurs, il était question que le mari aille à Moscou, mais moi, on m'a pas rien donné, donc il voulait pas partir sans moi. Bon, alors voilà. Alors finalement, on se retrouve décidant d'aller vivre au Maroc. On est allé au Maroc. On est allé au Maroc, je crois, 59.
Où vous enseignez?
Alors là, au début, j'enseignais pas. C'était pour un projet. C'est moi qui avais suscité cela. J'avais écrit l'adaptation d'un roman d'Œdipe pour que le mari le cherche des producteurs. Et donc, c'est à partir de Tunisien, à partir du directeur de Jeune Afrique, il m'envoie ici, j'ai oublié le nom, d'un bon réalisateur qui avait réalisé un film à Tunis. Et qui, je lui explique ce que je veux, trouver un producteur qui s'intéresse à ce roman algérien. Il m'envoie Anatole Doman. Donc voilà Doman qui accepte de venir. Et on se retrouve tous au Maroc. Et moi, au Maroc, je découvre le Maroc. Alors là, ça a été un coup de foudre. Alors au début, je pensais pas enseigner. On avait ce projet. Et puis Doman vient, il trouve des producteurs. Enfin, tout ça est assez long, mais c'était aussi assez joyeux aussi. Le pays étant tellement vaste, c'était un pays à ce moment-là où la gauche marocaine était au pouvoir.
Et vous sentiez des différences politiques importantes?
Non, pas des différences politiques. J'enviais le Maroc avec la beauté de ce pays. Oui. Et puis aussi
il y avait la gauche. Plus de souplesse ou pas?
Comment?
Plus de souplesse
Non, c'est pas ça. C'est les espaces qui m'ont fascinée. Les
paysages.
Vieilles villes conservées. Ah oui, j'ai été passionnée. J'ai passé 3 ans, vous savez. Ouais. Et c'est parce que dans la rue, je rencontre Charles-André Julien. Malgré tout, je l'avais eu comme professeur quand il était en Sorbonne. Il faisait histoire de la colonisation. Ouais. Il me dit, qu'est-ce que vous faites là? Je lui dis, je suis le mari, on est dans un projet de cinéma. Il a dit, mais j'ai besoin de... Il était doyen, je savais pas. Il me dit, j'ai besoin de vous à la fac, venez. Donc je suis allée.
Donc c'est là que vous avez enseigné.
Et là, pendant 3 ans, j'ai enseigné l'histoire à des étudiants qui avaient mon âge souvent.
Oui.
Et puis, en même temps, j'ai écrit mon 3e roman. Les enfants du Nouveau Monde. Ma mère et ma belle-mère sont venues me voir, m'ont raconté un petit détail de la guerre à Blida. Et à partir de ce détail, j'ai écrit ce livre qui va sortir d'ailleurs à New York ce mois de septembre, Les enfants du Nouveau Monde.
Oui, qui va être réédité.
Mais donc, vous voyez, jusque-là, jusqu'en 62, on pourrait dire que mon écriture de roman était toujours des parenthèses dans ma vie. Et j'avais l'impression que ce que je voyais dans la vie ou les gens qu'on rencontrait, parce que quand même entre Algériens, vous rencontriez un jour quelqu'un qui venait du Maquis, quelqu'un qui était parti, je sais pas où, chez Nasser ou chez Tel. Alors, ils avaient tous des choses à raconter. Puis, on commençait aussi à savoir les divisions entre eux. Et il y avait des clans, moi j'étais toujours au milieu d'hommes et j'écoutais, mais j'étais toujours observatrice. Je trouvais que, je disais toujours, ça doit être comme ça, les Français de Londres. Mais je me sentais toujours là, parce que j'étais femme, parce que le mari était là, si on me regardait un peu trop, il en faisait une maladie. Et malgré ça, on voulait quand même faire ce film qui ne s'est pas fait.
Est-ce qu'on arrive enfin à cette écriture cinématographique?
Non, c'est bien après.
Encore?
En 62, je rentre. En 62, je sors Les enfants du Nouveau Monde.
Oui.
Chez Julia. Au lieu de rentrer directement, ce que moi je voulais, rentrer directement à Alger par la frontière, le mari dit non, moi j'ai besoin d'aller au quartier latin parce qu'il en avait été privé depuis 58.
Donc
vous voyez?
Vous venez en France.
Donc on vient juste pour que je signe le contrat et puis on rentre. Mais entre temps, puisque le livre
sortait... Vous allez aussi écrire Les alouettes naïves.
Ah oui, alors là ça prend plus de temps. On rentre en 62, le 30 juin 62 je rentre comme envoyé de l'Express. Je connaissais bien Jean-Daniel déjà, oui. Puisqu'à Tunis, il était celui qui... Mmh. On faisait des fêtes, parce que j'ai oublié de vous dire qu'à Sidi Bou Saïd, après j'avais une maison superbe, donc on faisait des fêtes. pour des gens qui voient passer tout un tas de choses, il faut bien faire des fêtes. C'était l'époque des danseuses tunisiennes qui dansaient avec leur poterie sur la tête. Elles étaient belles de jumelles. On faisait des fêtes comme ça. Il y avait un ami qui s'appelait Raymond, André Raymond, qui était spécialiste d'histoire
des villes musulmanes.
Oui. On était finalement, les gens ne comprennent pas que pendant la guerre d'Algérie, on était toujours, quand on était en Tunisie ou au Maroc, à Rabat, c'était toujours un mix mélangé de couples franco-algériens et français. Et marocains et tunisiens, mais c'était vraiment tout ça.
C'était
des gens de passage, des gens. Alors, c'était à la fois un peu gay, et puis de temps en temps, on suivait aussi les divisions qui commençaient à se faire. J'ai eu l'arrière de ce schéma, donc moi, j'ai pas trouvé romantique toute cette histoire.
Période.
Si j'étais rentrée, j'aurais vu la tragédie. Je l'ai comprise une fois que je suis rentrée. De 62 à 65, je ne fais qu'enseigner à l'université d'Alger. J'étais la seule à enseigner l'histoire. Comme j'avais déjà enseigné 3 ans,
il devait y avoir beaucoup de femmes qui enseignaient.
Non, j'étais la seule, même la seule algérienne à être historienne.
En plus, l'histoire contemporaine du Maghreb,
moderne et contemporaine. Je faisais le 19e siècle.
C'était aussi tout à fait novateur, même en France à la même époque, on n'enseignait pas l'histoire contemporaine.
Je dois vous dire que pendant tout le temps où j'étais au Maroc, j'emportais toujours 2 livres avec moi. Ça, c'est intéressant pour vous. J'étais, à ce moment-là, mon auteur culte était César Pavese. Donc, j'apprenais l'italien pour pouvoir lire sa poésie qui n'était pas traduite, mais j'avais ces livres qui m'avaient paru tellement beaux. Parce que je me retrouvais, je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais analysé pourquoi je me retrouvais avant que le coach chante, avec toute une série de livres très courts mais très denses. J'ai tout lu de Pavese à ce moment-là. Et parce que, donc, finalement, je n'avais pas eu d'un enthousiasme d'un auteur modèle, homme ou femme, dans la littérature contemporaine française. Je n'aimais pas du tout Simone de Beauvoir. Je suis obligée de le dire. Et d'ailleurs, j'avais Gabriel Bounour, je l'ai appelé Gaston. Gabriel Bounour, qui a été ma collègue à Rabat, et qui, en lisant mes livres, m'a dit « Vous écrivez mieux que Simone de Beauvoir ». J'ai rien dit, parce que quand même, j'étais pas assez culottée pour dire que je l'aimais pas, ce que je n'aimais pas dans le milieu français littéraire. Je disais, mais pourquoi ces femmes sont toujours par couple? C'est Madame Sartre et Madame Aragon. Et donc, finalement, le féminisme, c'est pas ça.
Eh oui.
Voilà. Mais je ne trouvais pas de gens, pourtant je lisais, mais je trouvais pas... Et donc, les auteurs italiens ou les anglaises, ou bien je me sentais... Je pense que c'était les Russes, beaucoup. Et puis Pavese, je pense que c'était son adolescence aussi. Voilà. Alors donc, et en dehors de cela, j'avais toujours mon deuxième livre, et c'était La Méditerranée au temps de Philippe II.
Ah oui, un livre d'histoire.
Gros comme ça. Et Brodel. Je disais, c'est comme ça que je ferai mes cours. Voilà.
Vous aviez
donc, je voulais vraiment être historienne.
Un vrai modèle. Donc,
dès 58, 59, si j'avais été là. Et si ça n'avait pas été la guerre d'Algérie, j'aurais fini par être une disciple.
Marquons une courte pause musicale et retrouvez Assia Djebbar de l'Académie française dans quelques instants sur Canal Académie. Assia Djebbar vient de nous dire comment l'écriture de ses romans était pour elle des parenthèses dans sa vie. Elle vient d'évoquer son auteur culte, César Pavese, et nous a dit son admiration pour la thèse de Fernand Braudel, La Méditerranée au temps de Philippe II. Dernière partie de cet entretien, jeune romancière, mais aussi historienne, Assia Djebbar explique son rapport à cette discipline et son enseignement avant d'évoquer son expérience du cinéma en Algérie dans les années 70. Retrouvons-la.
de 62 à 65, je voulais vraiment être dans l'histoire, enseigner mon histoire. Et puis 64-65, on décide que l'arabisation va toucher en priorité l'histoire et la philosophie. Ce que je comprenais, mais je disais, attendez, c'est normal que vous arabisiez l'école primaire et l'école secondaire, c'est plus nos ancêtres les Loulois. Mais moi, en histoire, peu importe la langue, j'étais passionnée et j'avais des étudiants formidables. Vous savez, je leur disais, enseigner l'histoire, ce n'est pas raconter les événements, c'est ce qu'on appelait les travaux dirigés, ouais. C'est avoir des textes et apprendre aux jeunes futurs historiens la critique historique.
Et d'ailleurs, dans vos romans, vous avez mêlé très habilement justement cette formation
ça,
historienne
c'est parce que
avec des sources que la narratrice critique.
Voilà. Donc, je me suis facilement retrouvée.
Justement, tout en citant les documents tels que.
Mais c'est
cette
bien
belle
après.
Distance. Ouais, ça, c'est des bien années après, plus tard, mais c'est
sûr.
Toutes ces années ont.
Mais
on
moi,
vous
si
ont
j'avais,
de...
honnêtement, si j'avais vraiment pu enseigner l'histoire comme je le voulais, j'aurais formé 10 étudiants qui, 10 ans après, auraient été assistants.
Oui.
Et j'aurais senti, en quelque sorte, le dû du fait que j'avais été un peu en avance par rapport à d'autres. Ben, je le donnais, je transmettais. Après, bon, vous êtes plus apaisés. Tandis qu'ils ont cassé en 65. Vous savez, c'était une réunion où il y avait le ministre, qui avait mon âge d'ailleurs, et que je connaissais d'avant. Et puis, il avait dit, tous les gens qui enseignent, réunion. Et puis devant tout le monde, il a dit « Bon, ben, à partir de telle date, l'histoire et la philosophie seront enseignées en arabe
en
à la fac. » Personne n'a rien dit parce que c'était le ministre, aussi prétentieux qu'il soit. Et moi, j'ai levé le doigt et j'étais très timide parce que j'étais la seule femme. Et j'ai dit « Monsieur le ministre, ça n'est pas une bonne solution pour l'histoire. » Parce que, ce que j'ai dit, on n'enseigne pas un contenu. Le contenu, bien sûr, c'est facile. Vous n'avez qu'à vous le changer pour l'enseignement primaire, je suis d'accord. Mais pour le secondaire, on a déjà fait la faute au Maroc. Et donc, les historiens que vous amènerez, qui seront capables d'enseigner l'histoire, vont faire de l'histoire événementielle. Or, il faut avoir des historiens,
il faut
travailler
sur
les questions.
Sources.
Et pour se poser des questions, par exemple, moi, quand je faisais même en première année ce qu'on appelait au propédeutique, je disais, bon, on est indépendant, maintenant on peut se demander pourquoi l'émir Abdelkader a échoué. Je viens pas vous dire c'est un héros, voilà ce qu'il a fait, vous le savez tous, parce qu'ils étaient quand même assez politisés à ce moment-là, mais on va analyser pourquoi dans les 16 ans de son combat, à quel moment les forces militaires, c'est pas une question simplement de technique, c'est une question, évidemment, enfin, c'était assez facile après de montrer, de leur faire poser des questions, même si on ne répond pas aux questions, c'est comme ça qu'on aborde l'histoire. Effectivement, j'avais de plus en plus de gens qui venaient pour moi, mais pour les doctorants, pour ceux qui sont déjà deuxième, troisième année, on ne faisait que des explications de texte pour qu'ils puissent eux-mêmes, après, savoir dans quoi ils vont, enfin, faire sentir les questions à résoudre. Et pour moi, c'était former des citoyens.
Oui.
Voilà. C'est ça qui restait sur ma grande faim. Donc, quand j'ai vu qu'on a arabisé, eh bien, j'ai dit, je claque la porte et je pars. Ce n'est pas que j'étais contre l'arabe. C'est qu'à l'époque, on ne pouvait pas avoir des arabisants qui étaient vraiment aussi rigoureux que ceux qui, disons, pas seulement en Sorbonne ou dans des pays occidentaux, posaient les questions en retrait par rapport au contenu. Et j'avais fait l'expérience des 3 ans au Maroc, où on avait beaucoup de moyens orientaux, qui, quand ils mettaient 19 à une copie, moi je mettais 2. C'était pas ce que je demandais, pas qu'on me fasse du par cœur.
Bien sûr.
Alors ça a été pour moi fondamental. Alors voilà, je suis même plus utile comme historienne. Et donc on est revenu ici. Et puis, bon, ben, j'ai passé quand même pas mal de temps. À ce moment-là, le mari que j'avais a ouvert un café-théâtre et je l'ai aidé au théâtre. Enfin, voilà, j'ai fait beaucoup de choses. L'expérience de cinéma, c'est en 74. On retourne.
Dans les années 70.
On retourne. Évidemment, à cette époque-là, on allait chaque été quand même. Et en 74, on se réinstalle en France, à Alger. Et je comprends que pour vivre comme universitaire, je n'avais qu'à enseigner la littérature française. Ce que je fais, Mais immédiatement, comme je divorce, après tant de temps d'un mariage de 17 ans, je divorce, je sais tout comment on fait du cinéma, donc je vais à la télévision
donc
algérienne.
Donc là, vous prenez les commandes.
Je vais à la télévision algérienne, je leur dis d'abord, je voudrais tout ce que vous avez produit, je veux le voir. J'ai visionné 13 films du cinéma et tous ces films ne m'intéressent pas. Et je dis, bon, écoutez, je vous demande rien, je vous demande un preneur son, une Jeep, et je vais d'abord aller dans les endroits où j'allais enfant, et je vais, après ça, vous apporter un canevas de films. Ils m'ont fait confiance parce que je demandais rien, parce que je demandais des choses très pratiques, et que je l'ai fait dans le secteur télévision, où là, ils avaient beaucoup de moyens, de techniciens déjà formés. Donc là, 74, c'était le seul État africain qui avait comme ça tous ses moyens. Et évidemment, ça a été long, ça a été difficile sur le plan technicien, parce que c'était une équipe de 17 hommes techniciens qui savaient pas travailler lentement. Et moi, je m'approchais des femmes très lentement.
Mais la Nouba des femmes du monde chez
j'ai
moi...
J'ai mis 3 ans de travail pour faire 3 heures de film. Avec une au montage, j'ai arrêté parce qu'une fois qu'on a fait le montage image, oui. Le montage son était dégueulasse. Et pour moi, c'est aussi important que le. Alors donc, j'ai dit j'arrête.
Il faudrait juste préciser que sur cette bande son justement de ce film, on entend à la fois la musique de Béla Bartók,
et beaucoup mais aussi de musiques très anciennes,
de musiques anciennes
de toutes sortes,
algériennes, andalouses, des chants.
Oui, à peu près de tout. Pourquoi? Parce que tout mon regard documentaire, mais avec un semblant de fiction, était lié au chenois, c'est-à-dire aux montagnes autour de chez moi. Et du coup, puisque ça devenait, on ne bougeait pas de cet endroit et de ces montagnes, j'ai voulu qu'au son, il y ait toutes les musiques très anciennes. Donc j'ai tout écouté et je n'ai pris que ce qui pouvait aller pour telle séquence, pour telle autre. Ça a été passionnant pour moi parce que je trouve que le montage, c'est 50% du film. J'avais un très bon monteur d'ailleurs algérien. Et après, le montage son, je l'ai refait ici. Et puis après, on montre le film à la Cinémathèque où j'avais déjà des amis, où tous les grands cinéastes venaient. Et la fameuse soirée où on montre mon film, eh bien, je me retrouve avec 300 personnes, donc 10 ou 15 femmes, et tous des hommes parce que c'était à 9h du soir. Et c'était déjà une époque où les femmes ne sortaient pas le soir.
Et dans ce film, il y a aussi là des témoignages de.
Oui,
c'est très important parce que.
Vous l'avez vu, le film?
Oui, je l'ai vu et dans vos romans plus tard.
Il faut vous dire que le film est terminé. Ouais. Les gens se sont levés pour me frapper. Et qu'il y a eu un réalisateur bien costaud comme ça qui m'a dit, n'aie pas peur, je suis là. Et vous savez pourquoi? Pourquoi vous mettez l'homme handicapé? On voit bien que vous avez des problèmes comme toutes les féministes américaines contre les hommes.
Parce qu'on voit justement, c'est le seul acteur du film
qui est blessé,
il est tombé de cheval, il est dans un fauteuil roulant et il est donc impuissant.
Alors donc, à ce moment-là,
bouger.
Évidemment, j'ai pas filmé les scènes d'amour puisque c'était pour la télé, elles seraient pas passées de toute façon. Quand j'ai vu qu'ils voyaient le film au premier degré comme ça, je les ai regardés, j'ai dit attendez. Depuis ce matin, c'est sur tous les journaux que, soi-disant, c'est le premier film tourné par une femme. Et vous êtes venus tous, vous n'avez même pas amené votre mère ou votre sœur ou votre... Dites-moi un peu, est-ce qu'elles sont handicapées si vous les avez laissées à 8h du soir, non accompagnées par vous? Elles n'ont pas pu venir. Alors, ils n'ont rien dit. J'ai dit, vous voyez bien que si je mets un homme à l'intérieur et une femme à l'extérieur, il faut qu'ils soient handicapés pour que ça paraisse vraisemblable dans ce pays. Alors,
ça
vous pensez bien que quand j'ai dit
ça,
il y en a deux qui sont levés pour m'insulter, etc. Ouais. Et alors, à partir de là, j'ai dit, c'est fini. Moi, j'ai passé 3 ans pour faire 3 heures. Je vais pas continuer. Mais je dois dire, j'ai quand même fait un deuxième. Mais c'est aussi parce que
c'est un beau film dans lequel vous montrez les femmes qui chantent, qui dansent, qui jouent de la musique dans les grottes. Sous terre.
Oui, petit à petit, je le faisais comme ça. J'improvisais quelquefois.
Et ce sont des thèmes des qu'on retrouve après dans vos
bien
romans
sûr.
Et même cette façon de filmer de les mettre en lumière sous terre, elles ont des habits très colorés, c'est vrai qu'on pense aux couvertures
vraiment elle,
de vos oui bien sûr
c'était vraiment elle.
Mais du coup, on pense aux couvertures de vos romans qui sont les peintures de Delacroix et toutes ces couleurs sont justement mises en lumière par ces,
enfin,
ces
écoutez,
moments du film.
Moi, j'étais très étonnée complètement lorsque
c'est
ce
un
film...
cinéma un petit peu du style d'Agnès Varda pour quand même un peu situé.
Oui, et le plus fort, c'est que j'avais pas vu de film d'Agnès Varda encore à ce moment-là. Pourtant, j'allais beaucoup au cinéma, mais le mari que j'avais voyait tous les films américains, donc je voyais les films américains. Mais bon, j'avais après une culture quand même un peu plus complète. Non, je crois que c'était redécouvrir l'univers de mon enfance.
Oui, et les femmes de votre enfance.
Voilà, et puis savoir
témoins.
Comment les cadrer. Et donc, pour moi, c'était, comment dire, ça a été un grand tournant.
Et dans...
Même si on m'a empêché après de faire des films, j'ai bien vu que ça a joué dans ma narration.
Oui, et pour le spectateur que j'étais hier, on entend sur la bande-son le fait d'entendre les enfants, les animaux de la ferme, des
même
sons
son
qu'on n'entend
voilà,
plus,
exactement.
On entend les vagues, qu'on
voilà.
retrouve dans le roman La disparition de la langue française, où vous avez un héros qui repart en Algérie, qui est un Algérien qui est venu
bien
travailler
sûr.
En France et qui repart et qui va écrire, justement. Et il choisit d'habiter près de la mer. J'ai pensé, quand on entend les vagues sur cette côte qui est très très belle, on entend dans la bande-son ces sons naturels qui ont disparu aujourd'hui du cinéma. Et il y a ce mélange d'authenticité, de montage, de narration, de chant.
Et puis après, une voix off, de temps en temps.
Et une voix off. Et c'est une écriture où on retrouve votre patte quand même, hein, parce que là.
Oui, mais c'était une façon d'apprendre à faire du cinéma, le cinéma que je voulais, que je ne trouvais pas.
Au cours de votre...
C'était touchant pour moi d'écouter la langue de l'enfance, de les voir passer quelquefois elle passait au berbère.
Oui, les femmes du film de la Nouba. Oui. Qu'est-ce que la Nouba, Assiette,
je sais pas. Alors, je l'ai mis, ça veut dire Nouba, ça veut dire le tour. Par exemple, moi je parle et vous parlez, chacun parle à son tour. Mais en même temps, la Nouba, en musique andalouse, c'est comme une symphonie, avec des mouvements différents. Alors donc j'ai joué sur les deux, pour avoir cette narration très, très lâche, très... Voilà. Et puis Bartók, j'ai plongé dedans et j'ai essayé de retrouver certains mouvements. À un moment donné, le plan, je ne sais pas si le plan que je préfère, c'est un plan où j'étais sur la grue. J'ai jamais compris pourquoi il fonctionne comme ça dans la ville de Cherchel avec les fontaines.
Oui.
Et je suis montée avec l'opérateur. Je dois dire qu'il y a eu 3 opérateurs, dont 2 qui sont morts. Mais c'est pas nous qui les avons tués. Mon actrice et moi. Mais ils sont morts, effectivement. Mais ça, c'était le 3e ou le 2e. Donc, je suis montée avec lui je voulais vraiment retrouver le phare de mon pays, de ma ville.
Ah, on le voit dans le film.
Voilà.
Parce qu'à un moment, il y a le jardin public et effectivement, la grue monte et on voit le phare et la mer au loin.
Une fois que j'ai jamais compris. Une fois que le cadrage est stable, c'est le phare qui surgit. Comme un phallus. J'étais le seul plan masculin.
Alors, nous n'avons pas eu le temps d'aborder toute votre palette. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'être venu au moins nous exposer cette première grande partie de votre vie. On verra la suite une autre fois.
Voilà, c'est la genèse.
Merci beaucoup. C'était la genèse avant la publication d'autres romans qui vous ont fait connaître d'un plus grand public. Et puis, ça a été l'occasion pour vous aussi de nouveaux voyages et de nouveaux départs. Je vous remercie, Assia Djebbar, d'être venue témoigner sur vos premiers romans et sur cette partie de votre vie. Et j'invite les internautes à retrouver cette émission dans la médiathèque de Canal Académie.